On va partager quelque chose de la parole de Dieu et c'est vrai que c'est toujours partager la parole, c'est toujours un cadeau. Dieu nous dit tant de choses qui sont importantes pour nos vies, qui sont belles, qui sont fortes. Des fois, on aime prendre les belles choses et puis on laisse un peu les autres choses qui nous dérangent, on les repousse de côté. On a un peu ri ce matin en début avec ce « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est vrai que voilà, c'est un texte qui n'est pas forcément facile aujourd'hui dans notre contexte actuel à méditer. Et ne vous inquiétez pas, mesdames, je ne vais pas prêcher sur ce passage-là ce matin. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette facilité que l'on a à accéder au texte aisé et puis à mettre de côté les textes un peu plus compliqués. Alors, j'aimerais prendre ce matin un texte qui paraît être un texte facile. C'est dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, la fameuse parabole du bon berger. Voyez tout de suite un peu de quoi je veux parler. Donc, Jean 10, depuis le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche à leur tête et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutées. Je suis la porte. » Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer, pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup ? Il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent comme mon père me connaît et que je connais mon père et que je me dessaisis de ma vie pour mes brebis. Voilà, un beau texte, un de ces textes qu'on a envie parfois de mettre à la porte du frigo, comme j'aime bien le dire. Hein, vous savez, ces beaux posters qu'on met, voilà, et puis tout est bien, il y a une belle photo. Vous savez que j'aime l'Irlande, il y a beaucoup de moutons en Irlande. On vit avec ma femme dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants. En Irlande, il y a plus de moutons que d'habitants. Mais voilà, c'est beau, hein, c'est bucolique, c'est une vision un petit peu idéale et idéalisée de l'Église. Quand j'étais un petit garçon, j'avais au mur en dessus de mon lit une de ces cartes, vous savez, les anciens en avaient de ces cartes à colorier avec des versets bibliques. Ça vous dit quelque chose, hein? Et puis, alors voilà, c'était la carte « Je suis le bon berger ». Et puis, j'avais bien colorié tout ça. Et puis, j'avais mis au mur et il y avait Jésus, il y avait cette belle brebis, beau mouton, voilà. Et puis, ça parlait voilà, de cette tendresse de Jésus et c'était quelque chose de très, très beau. Cette vision comme ça un peu idyllique. Quand j'étais enfant, toujours, j'allais à l'école dans un village, à Montalcher, qui était pas très très loin de chez nous, un peu plus de 2 km. Et puis, ça montait comme ça, il y avait le village en haut avec. C'était une vision assez belle. Hein. Si vous allez une fois, vous montez depuis Saint-Aubin pour aller à Provence, vous passerez par le petit village de Montalcher, dont je suis le citoyen originaire. Voilà, j'ai mes. C'est là que ma famille a élu domicile il y a des siècles de cela. Et puis, un jour que j'allais à l'école, au pied du village, dans une petite combe comme ça, il y avait un troupeau de moutons. Vous savez, le troupeau de moutons, avec le berger, le vrai berger, avec la pèlerine noire, comme dans les scènes de Noël, hein, avec le bâton aussi, avec l'âne, avec les chiens. Enfin, c'était vraiment la totale, quoi. Le troupeau de moutons, Ikea, voilà, hein, absolument parfait. Et moi, j'étais là, j'avais, je sais pas, 8 ans peut-être, et je me suis arrêté et j'ai regardé. Et je suis resté là, je me suis perdu dans ma contemplation. Il y avait le village derrière, il y avait le troupeau de moutons, il y avait le berger. C'était une vision tellement belle que je suis resté là en adoration devant ça et j'ai oublié complètement le temps. Et tout d'un coup, je me suis rappelé que je devais quand même aller à l'école. Donc j'ai repris ma route à contre-cœur. Je suis arrivé à l'école. Je me disais que dans ma grande innocence et ma grande candeur, je me disais que la maîtresse allait comprendre quand je lui expliquerais pourquoi j'avais 1 heure de retard, qu'elle allait comprendre que voilà, devant un tel spectacle, on ne pouvait que s'arrêter et contempler, et qu'il y avait plus à apprendre là que dans la leçon de grammaire, de toute façon qui servirait jamais à rien. Voilà, et je suis arrivé et ma première grande déception a été de découvrir que ma maîtresse, qui était très jolie, n'avait aucun sens de la beauté et de l'esthétique, puisqu'elle m'a collé 1 heure d'arrêt pour cela, qui était d'ailleurs ma seule et unique heure d'arrêt à l'école primaire. Après, ça s'est gâté, très nettement, avec l'adolescence. Mais j'étais un enfant sage et j'avais vraiment pas du tout le désir de désobéir à qui que ce soit. Mais cette vision était si belle. Et des fois, j'ai un peu l'impression qu'on a un peu cette vision-là de l'Église. Vous savez, quelque chose de tellement beau, de tellement. Voilà. C'est presque parfait, et puis tout est beau, on chante des beaux chants à l'église, on est content, on fait des beaux sourires, on n'a pas de problème. Les gens qui vous parlent sont des gens qui n'ont pas de problème, ils en ont quand ils sortent, hein, mais dans l'église, ils n'en ont pas. Le pasteur est quelqu'un de fort sympathique, toujours une parole douce et gentille. Voilà, cette vision un tout petit peu, un peu sucrée comme ça, hein, un petit peu sentimentale de la vie et de notre relation avec Dieu. On a chanté un des derniers chants qu'on a chanté là, tous ensemble, avait des paroles extrêmement sentimentales. Et je me demandais comment Jésus entendait ces paroles. Parce que Jésus nous parle d'amour, mais il ne nous parle pas de sentimentalisme dans l'évangile, si vous avez remarqué. C'est une grande différence, hein, la vision sentimentale et l'amour. L'amour, c'est souvent quelque chose de. C'est un combat, c'est une lutte, c'est une discipline, c'est beaucoup de choses, l'amour. Et c'est prendre soin de l'autre, avec ses bons côtés et avec ses côtés difficiles aussi. Et dans ce texte, si vous avez été attentif, vous vous serez rendu compte que Jésus ne nous parle pas de choses si faciles que ça. Il nous parle d'un ennemi, hein, de deux ennemis même. D'abord le voleur, et ensuite un ennemi un peu moins fort, mais le mercenaire. Et Jésus nous traite d'abord de brebis, de moutons, de moutons, moutons. Voilà. Il aurait pu dire vache s'il avait été chez nous. Je me disais, comment est-ce qu'on actualiserait ce texte aujourd'hui? Eh bien, on ne pourrait pas dire une vache, parce qu'une vache, elle est capable d'attaquer. Vous savez que la caractéristique des moutons, c'est d'avoir quasiment pas de moyens de défense. Un mouton, c'est un être qui est démuni de presque toute capacité de défense. Avec ma femme, on était un jour attaqué par une brebis en Irlande. On marchait sur un petit chemin, c'était un chemin avec des cailloux de chaque côté, donc on ne pouvait pas sortir du chemin. Et puis, il y a une brebis qui était devant nous, et puis elle a commencé à gueuler, à baisser la tête, à venir vers nous. C'était un petit mouton irlandais. Vous savez, les moutons irlandais, c'est un peu comme les bonnes femmes de Sampé. Vous voyez, c'est des grosses bonnes femmes avec deux petites... Les jambes, c'est comme des bâtons. Hein. Alors, un mouton irlandais, c'est une boule de laine avec deux petits pieds, enfin quatre petits pieds. Moi, on n'en voit que deux parce qu'ils sont alignés. Vous me suivez mais tout fin, comme ça. Hein. Et puis, elle prenait son élan, elle fonçait sur nous et c'était à nous mourir de rire parce qu'enfin, c'est une petite bestiole comme ça. Même ma femme, qui n'est pas particulièrement animaux, n'avait pas peur de cette brebis. Il ne faut pas rêver. Une brebis qui attaque, elle ne fait peur à personne. Elle se fait peur à elle-même. Mais elle fait peur, à personne. Hein. Et c'est ce que je crois que c'est ce que Jésus veut nous dire. C'est que nous sommes des êtres démunis. Nous vivons dans un univers qui est un univers compliqué, un univers dangereux. Et que nous sommes sans défense. Sans défense. Je voyais il y a quelques jours un DVD sur les loups, pas sur Loulou, qui est un lion, mais sur les loups. Et il y avait là un berger en montagne qui parlait de sa relation avec les loups et il disait « Le loup est un prédateur et la seule défense que mes moutons ont vis-à-vis de ce prédateur, c'est ma personne et les chiens qui m'accompagnent. » Mais un mouton est totalement démuni face au loup, face au prédateur. Et c'est ce que Jésus, je crois, veut nous dire dans ce texte. Il ne veut pas nous faire une belle histoire pour qu'on puisse la mettre au mur. Je suis le bon berger, tout est beau, on sort les violons, et puis on fait quelque chose de beau et de sentimental. Jésus veut nous dire d'abord, attention, vous vivez dans un monde compliqué, vous vivez dans un monde où vous serez heurté, vous vivez dans une église même, hein, le cadre du troupeau, où il peut y avoir des choses dangereuses, violentes, qui peuvent vous arriver. Jésus nous parle de voleur, de celui qui entre par la fenêtre. Et là, j'aurais presque envie de parler aussi de violeur, celui qui entre sans autorisation, celui qui se permet d'entrer dans les zones les plus secrètes de notre être et de notre vie. Je me rappelle avoir entendu une fois quelqu'un qui me disait « Si je te permets d'entrer dans mon jardin secret et la politesse de ne pas marcher dans les plates-bandes. » C'est une phrase qui m'a beaucoup impressionné. Dans l'Église, nous disons des choses qui sont des choses de l'ordre de l'intimité, vous savez. J'étais il y a quelques semaines dans une église et puis là, un petit peu avant la prédication, il y a des personnes qui ont pris la parole et qui ont dit des choses et ça m'a vraiment impressionné. C'était des choses très intimes, très secrètes, très privées. Ils se sont dévoilés et c'était beau. Mais comme c'est dangereux aussi, est-ce qu'il n'y a pas un voleur qui est là? Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on prenne cette information et qu'on en fasse n'importe quoi? Qui sont les voleurs et les violeurs qui nous menacent dans l'Église? Je ne parle pas seulement de notre communauté là, hein, mais d'une manière plus générale. Il y a ce risque. Il y a ce risque. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus rien dire, qu'on doit s'enfermer, qu'on doit être... Mais attention, nous avons besoin d'être protégés de cela. Nous avons besoin d'être protégés par le berger, Jésus qui est notre berger. Et je crois que c'est très important, cette phrase que Jésus nous dit là, de nous mettre en garde véritablement contre les dangers qui nous menacent, même au sein de l'Église. Et que notre seule protection, c'est le bon berger. Notre seule protection, c'est le bon berger. Alors bien sûr, Jésus ne s'arrête pas là. Il va entrer dans quelque chose de plus compliqué à comprendre. Parce que voilà, la vision du voleur, on la saisit assez facilement. Hein. On identifie même assez rapidement quels sont les voleurs qui pourraient entrer dans une communauté, quelles sont ces personnes ou ces états d'esprit qui font du mal, qui génèrent des tensions, etc. Ça, c'est le rôle du conseil d'église, on s'en sort plus ou moins, on arrive à identifier. Mais Jésus nous parle d'un danger beaucoup plus subtil, celui-là, c'est le mercenaire. Qu'est-ce que c'est qu'un mercenaire ? Alors on connaît, nous les Suisses, on connaît les mercenaires au niveau militaire, parce que pendant des siècles on a été des mercenaires. Hein. Voilà, on envoyait les gens loin. Moi, j'ai travaillé juste à côté de la Seine, dans le Jura neuchâtelois, et les Sagnards envoyaient beaucoup de mercenaires, et c'était vraiment quelque chose qui était encore présent dans l'esprit du village. Hein. Et beaucoup de familles étaient des familles de mercenaires, il y avait des histoires qui se racontaient, etc. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui va bosser pour de l'argent. Voilà. En gros, un mercenaire, c'est un berger qui est payé. Il n'est pas le propriétaire du troupeau. On pourrait dire, en termes d'aujourd'hui, que c'est un fermier. Hein, c'est quelqu'un qui travaille contre un salaire. J'ai un ami à Genève qui s'occupe de la ferme de la ville de Genève. La ville de Genève possède une ferme, un très grand territoire, une grande ferme. Ils avaient, je ne sais plus, 120 bêtes, un immense domaine. Et puis, lui, il n'est pas propriétaire de ça. Hein. Il est le fermier, il est un mercenaire. On pourrait dire, voilà. Et dans l'Église, il y a des mercenaires. Alors, qui sont les mercenaires ? Qui sont les gens qui sont payés pour faire le boulot, pour s'occuper du troupeau ? On pourrait dire que c'est le pasteur. Hein ? C'est Philippe, le mercenaire, que Jésus est en train de fustiger, là. Hein ? D'ailleurs, ce n'est pas un bon pasteur. Il n'est même pas là au début du culte. On le cherche au début du culte. Il n'est pas là. Il est encore en train de je ne sais pas faire quoi dehors. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce mercenaire ? On ne peut pas compter sur lui. Et c'est un étranger, en plus de ça. Hein ? Ouais. Voilà. Ce sera un peu facile de s'arrêter là et de dire, voilà, le mercenaire, c'est le pasteur. Non, je ne pense pas que c'est ce que Jésus veut nous dire. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que le mercenaire, c'est quelqu'un qui ressemble extraordinairement au bon berger, mais qui n'est pas le bon berger. Et c'est très difficile de faire la différence entre un berger propriétaire et un berger mercenaire. Les deux savent faire le job, mais il y en a un, à un moment donné, qui ne va plus assumer le travail parce que, voilà, il a peur, parce qu'il se sent moins concerné, parce qu'il n'est pas propriétaire. La différence est difficile à faire. Il y a deux textes dans l'Évangile où Jésus attire notre attention sur une subtile différence. C'est ce texte-là. Et l'autre texte, c'est bien sûr la parabole de l'ivraie et du bon grain, où deux plantes identiques, non identifiables dans leurs différences, hein, mais qui portent des fruits fondamentalement différents, sont présentées. Et je crois que dans ces deux textes, Jésus veut vraiment attirer notre attention sur la subtilité des dangers qui nous menacent. Avec le voleur, ben voilà, c'était gros comme une montagne. On voit ça tout de suite. Hein. C'est comme quand on parle du péché dans l'Église, on parle des choses qu'on ne fera jamais, nous tuer, voilà, faire des choses impensables qui ne se vivent pas dans l'Église. C'est facile. Mais quand Jésus nous parle du mercenaire, il touche à quelque chose de difficilement identifiable, à quelque chose de subtil et à quelque chose qui fondamentalement nous menace parce qu'on nous fait croire qu'on suit le bon berger alors qu'en fait on s'attache à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Alors comment identifier le mercenaire ? Qui est-il ce mercenaire ? Eh bien, j'aimerais tracer peut-être quelques pistes. Je ne veux pas vous donner des réponses définitives parce que je crois que ça dépend de chacun d'entre nous. Nous sommes tous différents et nous sommes tous menacés de suivre un mercenaire, notre propre mercenaire. Hein, c'est à nous de l'identifier. C'est à nous de l'identifier. Mais juste quelques exemples. Quand j'étais jeune dans le ministère, parce que j'ai été jeune une fois, même si Luigi a de la peine à imaginer que ça puisse être arrivé, je sais qu'il n'était pas né du tout à cette époque très lointaine. J'étais moi-même mercenaire, comme Philippe, hein, un mercenaire philippien, on va dire. Et il y avait une dame dans la communauté qui était une dame très présente, très active, très dynamique, très engagée spirituellement. Elle était de toutes les activités, elle était partout, toujours là, on pouvait toujours compter sur elle, toujours de bonne humeur, etc. Et puis un jour, voilà, elle tombe malade, elle est hospitalisée. Rien de dramatique, mais enfin voilà, elle est à l'hôpital. Je vais la visiter, bien sûr, je suis un bon mercenaire. Et je la vois complètement découragée, cassée. Et je lui dis, mais ça va pas, c'est physiquement seulement ou bien spirituellement, comment tu vas? Elle me dit, mais physiquement, c'est pas grave. Voilà, j'ai été opérée, je vais me remettre, mais spirituellement, je suis complètement perdue. Et je lui dis, mais enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vis ça d'une façon si dramatique? Et elle me dit, mais tu vois, je peux plus aller au culte, je peux plus chanter dans la chorale, je peux plus m'occuper des dames, je peux plus ranger la salle, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et là, je me suis rendu compte tout d'un coup que pour cette personne, sa vie spirituelle, c'était l'activité dans l'église. C'était ça son bon berger. C'était venir au culte, c'était être actif, c'était faire partie de la communauté, c'était bouger, c'était être un membre, hein. Mais elle avait une relation avec l'Église. Elle chantait des cantiques, elle priait, mais tout ça faisait partie de la vie de l'Église. Mais elle n'était pas attachée au bon berger. Et la différence est subtile, extrêmement subtile, hein. Et c'est quand elle s'est trouvée privée de l'Église, de son activité d'église, elle s'est trouvée privée de l'essence même de sa vie spirituelle ou de ce qu'elle considérait comme sa vie spirituelle. Et du coup, elle a complètement perdu pied. Ça, c'est un danger, peut-être, qui nous menace. Pour d'autres, c'est l'expression de la tradition, du code religieux. Voilà, être chrétien. Être un disciple de Jésus, c'est respecter un certain nombre de choses, c'est faire des choses et ne pas faire des choses. On a parlé beaucoup de la lecture de la Bible. Moi, je me rappelle comme enfant, voilà, j'étais un petit enfant modèle. Mes parents nous avaient appris à lire dans le petit lecteur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, parce que si vous lisez avec le lecteur de la Bible, vous savez que vous avez des points bonus quand vous arrivez au ciel. Vous savez ça? Il vous l'a dit, Philippe. Donc, vous pouvez lire avec d'autres guides bibliques, mais il n'y a pas point bonus. Les points bonus, c'est uniquement avec la Ligue, hein. Donc, moi, j'étais bien. Donc, dès mon enfance, c'est comme la VS, vous savez, s'il vous manque des années, vous n'avez pas une rente complète. Si vous manque des années, vous n'avez pas une rente complète. Moi, depuis que je sais lire, c'est-à-dire depuis l'âge de 5 ans et demi, je lis ma Bible tous les jours. J'ai pas de trou, machin, etc. J'arrive au ciel avec carte pleine, comme à la COP, vous savez, vous pouvez avoir les casseroles, machin, etc. Moi, j'aurai une villa totalement équipée en arrivant au ciel. Il y en a d'autres, ils vont arriver, je veux dire, on leur dira, écoute, voilà, il y a un tas de briques, là, du bois, vas-y, t'as l'éternité pour construire ta maison. Hein? Fallait lire avec la Ligue, hein, mon pauvre, voilà. J'étais un petit garçon et je lisais ma Bible avant de m'endormir et ça m'est arrivé une ou deux fois de me réveiller en sursaut. J'ai pas lu ma Bible. Et on nous parlait beaucoup du retour de Jésus. Hein. Jésus allait revenir, voilà. Et je me disais, si Jésus revient cette nuit, parce qu'il revenait toujours la nuit, hein, ça entretient les angoisses. Après, on s'étonne qu'on est insomniaque. Je suis insomniaque, voilà. Je me disais, si Jésus revient, il va pas me prendre. Donc je rallumais la lumière, je lisais ma Bible, et puis je m'endormais. Voilà, tranquille. Mon bon berger, c'était lire la Bible. Voilà, c'est tout. Je lisais la Bible, et c'était mon bon berger, mais je n'avais pas une relation réelle et présente et vivante avec Jésus. Et pourtant, j'avais tous les aspects du bon petit garçon chrétien. Je connaissais plein de textes, je lisais des commentaires admirables, mais j'avais une relation avec ma Bible je n'avais pas une relation avec Jésus. Et ce que Jésus ne cesse de nous dire dans ce texte, c'est que c'est lui le bon berger et que nous devons apprendre à entendre sa voix et à la reconnaître. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Vous savez que c'est un thème qui est important pour mon épouse et pour moi, pour cette notion de l'écoute, cette notion de reconnaître la voix de Jésus. Et je crois qu'il y a vraiment là quelque chose d'extrêmement important que Jésus essaye de nous dire ce matin. C'est que faire partie de la communauté, même de cette belle communauté ici, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est d'être relié à Jésus, de pouvoir dire, c'est lui mon berger. Ce n'est pas tel ou tel ou tel mercenaire. C'est lui qui va être là quand ce sera difficile, quand il y aura une souffrance, quand il y aura un deuil, quand il y aura quelque chose d'insupportable. C'est lui qui va me protéger. C'est lui qui va me soutenir. C'est lui qui va m'aimer. C'est lui ma protection. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les habitudes. Ce ne sont pas les traditions. C'est Jésus. Jésus qui est mon berger. Jésus dont j'apprends tous les jours. Et c'est la force de l'habitude. Jésus qui apprend, qu'on apprend tous les jours à écouter. Dont on découvre la voix, on apprend à la reconnaître. Comme un bébé. Vous savez, un bébé, il doit apprendre à reconnaître la voix de ses parents. Et à force de les entendre, il sait qui c'est qui lui parle. Hein? Même quand on sait que les petits bébés ne voient pas bien. Hein? Mais ils reconnaissent le son de la voix. Ils reconnaissent le son de la voix. Est-ce que nous connaissons vraiment la voix de Jésus? Ou est-ce que nous connaissons surtout la voix de nos traditions et de nos habitudes? Voilà quelques réflexions par rapport à ce texte. Un texte important, je crois. Et un texte que Jésus nous donne avec beaucoup d'amour et de tendresse. Parce qu'il sait que nous sommes démunis face au danger de la vie. Nous sommes démunis face à la difficulté de la vie. Mais lui est notre protection. Et Jésus veut que nous nous mettions sous sa protection, qu'il soit véritablement notre berger. Je vous invite à avoir peut-être quelques instants de silence où nous pouvons réfléchir à cette question. Est-ce que Jésus est mon berger ou est-ce que je suis un mercenaire? Que nous puissions avoir l'honnêteté, hein, simplement l'honnêteté de répondre à cette question et peut-être de dire à Jésus ce matin, « Bien, tu vois, je me suis abusé moi-même depuis trop longtemps. Je croyais te servir, mais en fait, je ne te connais pas vraiment. Révèle-toi à moi. » Et le Seigneur désire le faire avec tout son amour et toute sa tendresse. Quelques instants de silence.